vérité qui serait définitive. Et ce sont les philosophes. Ça commence avec Parménide, peut-être même avant, Platon, et toute la philosophie, jusqu'aux néo-platoniciens, qui vont essayer de définir ce que c'est que le parfait, l'absolu, qu'un être qui serait vraiment divin, c'est-à-dire parfaitement un, éternel, purement agent, d'un être totalement accompli, qui par conséquent serait séparé de ce monde-là. C'est la tâche de la philosophie. C'est donc la philosophie qui va élaborer un cadre de pensée que la religion utilisera après. Mais dans ce travail, dans cette élaboration de la notion de l'être en tant qu'être, de l'un, de ce qui est absolument pur et absolu, les philosophes procèdent non par tradition, en se rapportant à des textes, mais par recherche intellectuelle. C'est-à-dire que c'est le même travail de l'intelligence qui se manifeste dans les débats publics ou dans les traités de mathématiques. C'est le même type d'intelligence et de réflexion qui va aussi essayer de donner corps à l'idée que par derrière les apparences, au-delà de ce monde transitoire, éphémère et mortel, il y a quelque chose qui est d'une autre nature et qui est l'absolu. Et en faisant ce travail intellectuel, philosophique, proprement dit, les Grecs ne trouveront jamais sur leur route une espèce de religion constituée qui les affronterait ouvertement. Il n'y a pas d'affrontement ouvert, constant et structurel entre la recherche intellectuelle des philosophes, qui est libre, et d'autre part, les institutions religieuses. D'ailleurs, il n'y a pas d'institutions religieuses, il y a des prêtrises, mais ces prêtrises, ce sont simplement des citoyens qui peuvent l'exercer. Il y a quelques prêtrises qui sont réservées aux grandes familles, par tradition, mais sinon, les prêtrises, comme les magistratures, sont désignées par l'Assemblée. Par conséquent, on est dans un domaine où, comme je le répète, le religieux et le civique sont étroitement mêlés. Et par conséquent, on a un système de culture qui ne connaîtra pas ce que le monde occidental a connu. Le moment où l'Église, par exemple, ayant à un moment donné, au cours des ans, au cours des siècles, construit une théologie, un système de pensée, va se sentir menacée chaque fois que, à côté d'elle et en dehors d'elle, d'autres philosophes, d'autres penseurs vont essayer de présenter des conclusions différentes. Alors là, l'affrontement est ouvert, de sorte que la grande coupure entre les croyants et les incroyants, qui est quand même les libres penseurs, les libertins et les libres penseurs au XIXe siècle, cette grande coupure qui a existé dans notre pays et qui a quand même été très importante dans la vie intellectuelle, elle n'existe pas réellement dans le monde antique. Il n'y a pas d'une part les croyants, d'autre part les incroyants. Il arrive qu'il y ait quelquefois des procès qui sont faits par les citoyens à tel philosophe, Anaxagore ou Démocrite peut-être, je ne me souviens plus, Socrate, mais Socrate c'est pour des raisons au fond plus politiques que religieuses. Ça veut dire qu'il y a de temps en temps des accidents de parcours, que par exemple quand un philosophe dit « Oh, vous savez, la Lune, c'est un amas de pierres calcinées », les gens sont furieux parce que la Lune, pour eux, c'est une divinité. C'est Séléné ou c'est Hécate. Donc, il peut y avoir là un accrochage. Mais il n'y a pas un affrontement structurel et constant entre le religieux et d'autre part la libre recherche philosophique. De sorte que tout le profil intellectuel se présente sous des formes différentes. Si vous ajoutez à cela ce que j'ai pu essayer de montrer, à savoir que l'homme grec, non seulement à l'égard du divin, il a une autre attitude que nous, mais à l'égard du monde. Le monde, pour lui, le monde, il est superbe, c'est un cosmos, il en fait partie. Et à aucun moment, l'homme grec ne pense, comme nous le faisons nous, que pour connaître ce monde, il faut en quelque sorte qu'il devienne intérieur à la conscience, qu'il faut prendre conscience de lui, que c'est dans la pensée que se fait le travail. Pour le grec, il est en quelque sorte cosmique par définition. Il est dans le monde, il est une créature qui fait partie du monde. Et en particulier, quand on regarde la conception que le grec se fait de la vision et du regard. La vision, pour les Grecs, le regard, c'est quelque chose de très important, puisque voir, pour le grec, c'est savoir, c'est le même mot. Et que voir, en même temps, c'est vivre. Quand on meurt, on cesse de voir et on cesse d'être vu. Bon, c'est donc à la fois le savoir et la vie. Mais en même temps, ce regard n'est pas, comme nous le croyons, une espèce de façon pour la conscience d'interpréter des faits physiques, les rayons lumineux, qui ont impressionné un organe qui est comme un appareil photographique, la rétine, et puis à un moment donné de le penser, non pas du tout. Notre regard se promène dans le monde. Les yeux, sont les rayons qui sortent des yeux, vont se promener dans le monde, toucher les objets, et en ce sens, en quelque sorte, le regard, à la fois savoir et vie, nous insère dans un cosmos dont nous faisons partie. Ce qui intéresse les Grecs, ce n'est pas de regarder en soi-même, de se regarder le nombril en cherchant quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'on est, l'introspection. Il n'y a pas de texte littéraire du type du journal intime. Tout ça, non. Ce qu'il y a, on ne peut, Platon le dit, Aristote le répétera, pour savoir qui on est, il ne faut pas regarder dans sa conscience, qui serait une espèce de chambre noire fermée. Il faut regarder ailleurs, il faut regarder autrui, un ami, un frère, l'œil d'autrui. C'est dans le rapport avec l'autre que je peux savoir ce que je suis. Parce que la Grèce est en même temps une société qu'on appelle, si vous voulez, une société où ce qui est fondamental, c'est l'honneur et la honte. On est toujours sous le regard de l'autre. On est ce que les autres voient de vous, ce qu'ils pensent de vous, la réputation qu'on peut avoir. La personne de quelqu'un, c'est le statut qui lui est reconnu par l'ensemble de ceux qui sont vivants avec lui et de ceux qui viendront après lui. Autrement dit, ça n'est pas une société où il y a le devoir, la culpabilité, le remords, le sentiment de la faute. C'est une société où il s'agit, par la compétition et suivant les voies qui sont les voies de l'honneur, il s'agit d'être le meilleur, hein, d'être un de ces aristoi, les meilleurs. Et ces aristoi, ils sont définis comme étant kaloi kagatoi, les deux adjectifs n'en faisant qu'un, bon, parce que lorsqu'on est dans une société où le regard est fondamental, où vous êtes sous le regard de